Balade en été vous est aujourd'hui présentée par Christophe Jubien.
Cette rue des Arts verra-t-elle un jour le jour? C'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite aux Chartreins, aux artisans comme aux Chartreins qui y habitent et aussi aux touristes. Toujours est-il que des tableaux sont à voir actuellement chez Bernard de Villers, qui on va dire est presque le père fondateur de la rue des Arts. En tout cas, c'est votre souhait le plus ardent?
Oui, c'est un projet que je défends depuis 25 ans maintenant à peu près. Cette rue, c'était une des rues les plus commerçantes de Chartres quand j'étais gamin. Et j'ai bien compris depuis longtemps que c'est une rue atypique, donc il ne peut pas y avoir les commerces qui ont besoin de voir beaucoup de monde. Mais par contre, des commerces comme le mien ou comme d'autres, où on est un peu obligé de venir exprès, se prêtent tout à fait à cette rue-là.
Alors, votre commerce, c'est l'encadrement. Vous êtes une figure quand même très connue à Chartres. Ça fait combien de temps que vous encadrez ?
Bah maintenant, moi, ça va faire un peu plus de 40 ans. Ouais, dans le même quartier, donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est des métiers de centre-ville. Hein.
Tout encadreur que vous êtes aussi amateur d'art et vous avez décidé de montrer des œuvres de Pierre Richir, à qui nous allons céder la parole tout à l'heure. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis déjà aussi longtemps.
Et ça a été un coup de cœur.
Alors, bizarrement, je vais vous dire, je ne suis pas amateur d'art. J'ai des coups de cœur, c'est tout. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui va aux expos et tout ça. Non, je suis pas amateur d'art. Je suis voilà, mais j'ai des coups de cœur. Et Pierre Richir, bah, je connais déjà, oui, depuis je dirais peut-être une vingtaine d'années ou plus peut-être. Et là, dernièrement, quand il m'a amené ses derniers travaux, j'ai vu qu'il y avait eu on va dire même plus qu'un changement, presque une mutation. Puisque jusqu'à présent, je connaissais un style, Pierre Richir, et là, tout d'un coup, j'ai vu apparaître un nouveau style, un peu comme on parle de période pour les grands peintres. Et j'ai complètement craqué. Il est revenu à une forme un peu figurative qui, moi, me parle peut-être plus que l'abstraction. Et donc, j'ai eu envie de lui proposer ma vitrine. J'ai envie de dire que ça m'arrive peut-être une fois tous les deux ans d'avoir ce genre de coup de cœur par rapport à des artistes que je connais ou que je connais pas d'ailleurs. Voilà un petit peu l'histoire.
Je reviens un peu en arrière. Comment être encadreur sans aimer les tableaux, sans vouloir les chérir, les mettre en valeur?
Alors non, justement, là, vous faites une petite confusion. Je dis que je suis pas amateur d'art. Parce qu'au contraire, moi, mon boulot, et je l'ai compris quand j'ai formé des apprentis, si vous voulez, c'est de mettre en valeur. Donc, j'ai envie de dire un peu grossièrement qu'on peut m'amener des choses qui ne me plaisent pas du tout, mais professionnellement, je saurais les mettre en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut m'amener un canevas, on peut m'amener une carte postale, souvenir de vacances. J'ai pas à juger. Et c'est en ça que je suis pas un amateur d'art, parce que dans le milieu de l'art, tout le monde juge tout le monde, et moi, je peux pas juger. Quoi qu'on m'amène, les gens, ils l'aiment, même ils l'ont acheté, donc je suis là pour le mettre en valeur, point barre.
Est-ce que vous avez déjà eu envie d'encadrer les toiles de Pierre?
On l'a souvent fait, hein, déjà par le passé, et puis encore aujourd'hui, oui, on l'a souvent fait.
Je me tourne vers Pierre Richir, c'est important l'encadreur? C'est une partie importante, évidemment, du tableau, ça met en valeur.
Aujourd'hui, c'est difficile à dire, parce que l'art contemporain, il a quand même mis le cadre de côté, hein, oui. Considérablement. Ça ne se prête pas forcément non plus, parce que suivant les formats, etc. Et puis les lieux où on expose aussi, ça compte énormément. Donc le cadre qui est un objet en lui-même, il a tendance quand même, je pense, à disparaître, sauf pour des toiles qui sont du 20e ou du 19e, et peut-être plus vieilles encore. Mais je veux dire, c'est une tendance. Hein, je veux dire, les artistes que je connais, c'est pas tellement moi qui dis ça d'ailleurs, mais j'entends de part et d'autre, des artistes qui disent que c'est pas nécessaire. Quoi. La toile leur suffit et souvent ils exposent les toiles. Et puis après, il y a le prix, évidemment. Et dans bien des cas, un cadre peut-être plus cher que la toile elle-même. Mais ça, c'est une autre histoire.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Bernard?
Oui, je voulais faire une nuance parce qu'en fait, le cadre ne disparaît pas et même pas dans l'art contemporain. On va dire que c'est la vision qu'on a du cadre qui disparaît. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas de quatre baguettes. Or, quand un artiste contemporain fait une installation, si c'est dans du land art ou même cristaux, quand il prend, là il est en train d'emballer un lac, c'est le paysage qui est le cadre. Donc en fait, le cadre, il est toujours là. C'est simplement la notion de quatre baguettes dorées qui est en train de disparaître. Mais moi, je vois, je peux faire pour des artistes contemporains des choses complètement étonnantes. Et moi-même, ça me surprend. C'est pour ça, encore une fois, que je dis, comme tout à l'heure, que je ne juge pas. Parce qu'en fin de compte, malgré cette appréhension que certains peuvent avoir sur le cadre, eh ben, moi, je suis le lien entre l'artiste et son public. Et donc, je suis capable d'apporter quand même des choses, même si l'artiste, quelque part, ne le reconnaît pas, ou même en est vexé, parce qu'il considère que son œuvre se suffit à elle-même. Alors qu'en fait, un cadre réussi, d'abord, c'est un cadre qui ne se remarque pas, et c'est quand même la cerise sur le gâteau, quoi.
Quel est le modus operandi d'un encadreur ? Donc, vous avez plusieurs matériaux, vous travaillez le bois, il y a la feuille d'or aussi, j'imagine. C'est vous qui fabriquez vos cadres, comment ça se passe ? Votre bois, vous allez le trouver vous-même, l'acheter ? Comment on travaille ?
Non, on ne travaille pas comme ça, en fait. Hein. Vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de moulures. Nous, on a des milliers et des milliers d'échantillons. Et en fin de compte, on peut travailler avec ça, mais on peut aussi même créer, parce que moi, ça m'arrive très souvent de créer, d'inventer des choses. Quand Pierre parlait du prix tout à l'heure, le prix du cadre, c'est vrai que ça a son incidence ou son importance. Mais en fait, nous, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre ce que la personne qui est en face de nous peut attendre d'un cadre et comment il voit sa mise en valeur par rapport soit à son décor, par rapport à ce qu'il a envie de dire. Et après, en fait, on va adapter en fonction de nos échantillons, en fonction de notre savoir-faire, en fonction, celui qui est d'horreur ou qui ne l'est pas, enfin, en fonction d'un tas d'éléments, on va adapter notre proposition à la fois au budget de la personne et puis surtout à son désir profond. Prenons un exemple, quand vous voyez un couple arriver, vous pouvez tout à fait tomber en plein milieu d'une querelle du couple. Par rapport au choix d'un cadre, et vous êtes là, vous êtes l'arbitre, vous devez en finale quand même leur proposer quelque chose qui va réunir le goût des deux, qui va marier, c'est le cas de le dire, un petit peu l'œuvre et leur intérieur. Vous voyez, c'est toute une démarche, c'est une approche complètement... Il n'y a pas de règle, quoi, finalement.
On est dans votre atelier, là, de la rue de la Clôtrie à Chartres. Il n'y a que des matériaux nobles, il y a du bois, ça sent bon. Et le temps... semble s'être aussi arrêté dans un atelier. C'est un lieu vraiment de paix.
Moi, j'ai intitulé ça un univers. C'est un univers à part entière. Moi, d'ailleurs, c'est le seul qui me convient, qui me structure. Je suis là 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Parce que finalement, voilà, c'est mon univers. Un autre atelier aura un autre univers. Et voilà, moi, je me sens bien dans celui-là. Voilà, mais il n'y a pas que des matières nobles, on peut aussi faire avec de la récup. Hein. Moi, j'ai fait pour une œuvre, j'ai pris des gaines de chantier et j'ai fait un cadre avec des gaines de chantier.
On va parler maintenant du travail de Pierre Richir. Tout à l'heure, Bernard de Villers disait « c'est pas une évolution, c'est une révolution, c'est une mutation ». Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est vrai, votre travail a complètement changé ces dernières années.
Ça ne s'est pas fait en 5 minutes, hein. Mais en quelques années, oui. Peut-être qu'à un moment donné, on se dit que on a fait le tour d'un certain sujet. On s'aperçoit aussi qu'on commence à se répéter un petit peu. Et donc, il y a une volonté d'aller ailleurs, de découvrir quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu aussi, parce que je pense que le travail d'un écrivain, d'un cinéaste, d'un sculpteur, c'est pas de toujours faire quelque chose de convenu. Mais quand on a une histoire soi-même, on a forcément un fil conducteur, et ça détermine quand même une progression.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous travaillez beaucoup sur la symbolique, sur des figures géométriques puisées dans les traditions. Et subitement, vous vous êtes mis finalement à peindre des personnages et surtout, vous avez aussi changé la matière première. Vous travailliez l'acrylique, vous avez découvert ou redécouvert l'huile, c'est bien ça ?
C'est ça. Et donc réappris aussi en même temps.
Réappris à peindre, on peut le dire ?
Ah oui. Et puis c'est pareil, quand on a délaissé la figure depuis quelques dizaines d'années, il y a des choses qu'il faut récupérer, quoi. Donc faut retravailler dans ce sens-là, faut remettre les pendules à l'heure, et c'est vraiment un travail considérable. Et puis après, c'est dans la tête, parce que est-ce qu'on est capable de voir ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on est capable d'adapter sa vision aussi à celle d'aujourd'hui ? On peint plus comme au 15e, on peint plus comme au 19e, et on peint déjà plus comme au 20e. Donc comment on met tout ça en place aujourd'hui ? Comment ça se structure ? Comment utiliser la matière, etc. Et puis, on parlait du cadre il y a un instant, mais c'est vrai que c'est aussi une notion qui est à repenser, je crois. Et tout ça, ça nécessite des efforts, et puis aussi des risques à prendre.
De quelle nature ?
Mais quand on crée une image, on se met toujours en danger, sauf si on la répète à l'infini. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, ce que j'ai constaté avec l'abstraction, c'est que ça tournait un petit peu dans un circuit fermé. Mais il y a toujours quelque chose à oser, quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais tenté, qu'on n'a jamais osé regarder sous cet angle, etc., etc. Et puis tout ça, encore une fois, c'est pas moi uniquement qui le dis, mais si vous écoutez les dernières interviews de Francis Bacon, c'est exactement la vision qu'il a, etc. Après, qu'on aime ou on n'aime pas le travail d'un peintre, ça c'est une autre affaire. Mais quelqu'un qui ne se remet pas en question, il y a quand même quelque chose qui cloche, à mon avis.
Est-ce que du point de vue humain, vous vous êtes remis en question ? Est-ce que vous avez accepté ? Moi, j'ai le sentiment que autrefois vos peintures dégageaient une forme de sérénité avec une petite frayeur cosmique tout de même. Mais là, on a l'impression que vous vous êtes mis à regarder à l'intérieur de vous au risque de vous effrayer vous-même.
Oui, c'est le cas. Ça a été d'ailleurs une période assez difficile, et puis c'est pas terminé. Alors, est-ce que c'est lié à la figuration ? Ça, je n'ai pas de réponse là-dessus. J'ai pas de recul non plus, peut-être. Mais ça fait surgir, ressurgir et bouger pas mal de choses en interne, oui, bien entendu.
Alors, on n'est pas non plus dans l'hyperfiguration. La réalité que vous nous proposez, c'est une réalité qui est quand même... Et trouble et brisé souvent en mille morceaux, flouté parfois. Il y a l'irruption de l'inconnu. Hein.
Alors, en même temps, j'ai pas envie de laisser tomber tout ce que j'ai fait avant non plus, parce que il y a des choses qui comptent pour moi. Il y a des choses qui sont très personnelles également, et c'est plutôt une volonté de mêler tout ça, et d'en tirer un nouvel univers, quelque chose qui n'existe pas encore pour moi. Donc refaire surgir l'abstrait, j'ai pas abandonné l'acrylique non plus. D'ailleurs, je fais beaucoup de fonds, je prépare beaucoup de fonds maintenant à l'acrylique, et après, l'huile vient par-dessus. L'inverse n'est pas possible, bien entendu, on peut pas utiliser de l'acrylique sur de l'huile. Mais par contre, l'huile se prête très bien à se déposer sur l'acrylique. Donc tout ça, ça permet aussi une richesse de découvertes, de trouvailles, d'essais, de recherches, etc., qui fait partie de l'intérêt de ce travail, bien entendu. Oui. Oui.
Et puis moi, j'ai le sentiment que vous racontez des histoires aussi. Maintenant, on a envie de les interpréter, de se raconter sa propre histoire. Quand on regarde vos tableaux, il y a des personnages, il y a des situations. On a l'impression de surgir au milieu d'une scène de film, parfois.
Oui, oui, c'est vrai que ça. Il y a des, on baigne dans des influences, bien, tous. Hein. Donc, pourquoi ne pas s'en servir ? Le cinéma, le théâtre, notre vie personnelle. Et puis, je crois qu'avant de trouver une image, de choisir une image, on tombe dessus et elle nous parle. Et c'est ça qui détermine, je crois, la volonté de la mettre en valeur, de la transformer, de jouer avec, etc. Il faut qu'il y ait soi-même déjà le choc pour que ça puisse se prolonger et peut-être toucher les autres après.
Vous faites partie de ces artistes qui ont à la fois une culture picturale, une culture littéraire étendue, mais aussi une culture populaire. Et la culture populaire, à travers notamment des personnages de séries télé ou de films, fait irruption dans vos toiles. Je pense notamment, on voit le Steve McQueen de La Grande Évasion, ou le prisonnier, le fameux prisonnier de la série télévision.
Et puis Les Envahisseurs aussi. Les Envahisseurs. Mais encore une fois, c'est une question d'image. Il faut parvenir, bien entendu, à sortir des images d'un film. Et après, tout dépend de l'attitude d'un personnage. Tout dépend de l'éclairage qui est à ce moment-là. Si je prends l'exemple des Envahisseurs, c'est vrai que c'est déjà une série assez mystérieuse, dans des ambiances assez blafardes, nocturnes, etc. Donc qui se prête tout à fait à la mise en scène. Alors, il ne s'agit pas non plus de refaire à l'identique, hein. Ça n'aurait pas grand intérêt d'ailleurs, mais peut-être de détourner justement, encore une fois, de malaxer, de transformer, pour aller ailleurs, retrouver autre chose et être surpris soi-même, en fin de compte. Oui. Le premier spectateur, c'est soi-même. Donc il faut se surprendre soi-même.
Est-ce que votre peinture dialogue aussi avec le monde d'aujourd'hui ? Et quel écho ?
Inconsciemment, sans doute. Pour appuyer sur des points précis, je dirais que non, parce que... Et je ne tiens pas non plus à être accaparé totalement par tout ça. Mais inconsciemment, ça circule, bien entendu. On est encore une fois sous influence tellement dans ce domaine que c'est inévitable.
Alors, je vous posais une question, je pourrais la poser finalement à tout le monde. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui dans le monde ? Et puis après, je vous demanderai qu'est-ce qui vous ravit ?
Qu'est-ce qui m'inquiète dans le monde ? Ouh là là ! En un mot ? Ben justement, je pense que ce qui m'inquiète le plus dans le monde, c'est son unification, en fait. On va dans une direction, on parlait il y a quelques années de pensée unique, on n'en parle plus du tout. Mais c'était un petit peu l'idée, oui. Plutôt que de tenter des choses différentes, mais comme on vient d'en parler dans l'art, c'est comme si on faisait toujours la même figure, c'est comme si on était toujours dans la même direction. Et bien entendu, l'histoire se répète. Hein, et ce qui est arrivé au siècle dernier réapparaît aujourd'hui et se reproduira dans l'avenir. Et on a l'impression d'être dans une cage de hamster.
Alors qu'est-ce qui vous réjouit ?
La nature. La nature. Et tant que l'homme, je pense, sera encore proche de la nature, il y aura toujours un petit espoir de s'en sortir. Mais malheureusement, on s'en coupe énormément. La nature, c'est réjouissant. Ouais.
La nature, on ne la voit pas beaucoup pour l'instant dans votre peinture, mais autrefois, vous aviez fait des séries, notamment sur des arbres.
Oui, c'est vrai. Disons que les fonds sont plutôt suggérés aujourd'hui, donc par rapport, encore une fois, à la recherche de l'abstraction, je cherche plus à faire émerger des figures humaines, mais l'homme fait partie de la nature. Hein. Voilà. Donc l'arbre ou l'homme, l'arbre, c'est comme une colonne vertébrale, on est... D'ailleurs, dans les traditions, il y a beaucoup d'analogies qui sont faites avec ça.
Parlons maintenant de l'actualité, de votre actualité. Donc il y a ces tableaux qui sont visibles rue de la Clouterie, dans l'atelier d'encadreur de Bernard de Villers. Est-ce qu'il y a d'autres lieux d'exposition actuellement ou dans un proche avenir ?
Alors chez moi, à Saint-Ville, à 30 km de Chartres, à Préonneau, dans l'atelier qui est ouvert, que tout le monde peut venir visiter, à condition de me prévenir à l'avance, un petit coup de téléphone, et on établit un rendez-vous et voilà. Et puis après, l'actualité de l'année prochaine, je ne la connais pas encore très bien.
J'engage tout le monde à venir aussi dans votre atelier, qui est un lieu assez magique. C'est un lieu que vous avez construit carrément vous-même, que vous avez totalement rénové pour y montrer vos peintures. Et c'est un lieu, un espace que vous appelez, c'est Skylab. On rappelle ce que c'est que ce Skylab ?
Oui, Skylab, c'est l'engin américain qui a été le premier engin envoyé à l'espace à être habité. Il a tourné pendant quelques années autour de la Terre avec des équipages différents. Donc c'était une station, une première station orbitale, entre guillemets, et qui permettait d'observer le cosmos, disons la nature extraterrestre. Voilà. Et ça, ça me séduit beaucoup.
Très bien. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone si les gens veulent vous appeler avant ?
Non ? Oui, oui, oui. Mon portable, c'est plus simple, hein, 06 01 88 24 22.
Et voilà, c'est fini pour cette balade en été qui nous a emmené rue de la Clouterie à Chartres, peut-être future rue des Arts. C'est le souhait de la municipalité, c'est le souhait de Bernard de Villers qui nous a accueillis dans son atelier d'encadreur. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition des balades en été.
That wheel in space while there's time. The fix is